Alors nous sommes ici à Cugain en compagnie de Latifa Labissi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Latifa Labissi, vous êtes danseuse, chorégraphe et fondatrice du festival Extension Sauvage. Extension Sauvage qui est donc festival de danse qui se tiendra à Combourg les samedis 15 et dimanche 16 juin à Bazouges-la-Pérouse et un second week-end qui aura lieu donc le samedi 22 juin et 23 juin à Bazouges-la-Pérouse aussi. Un festival durant lequel nous aurons le plaisir, nous, Radio Univers, d'être présents pour un plateau radio donc, qui aura lieu à 19h30 le samedi 15 juin, Cour des Arts à Combourg. Tout simplement, vous allez nous présenter ce festival, danse et paysages, forêt, ce sont les thématiques de ce festival, de cette édition.
On a changé... Il y a 2 ans, on a changé un peu la formule, en tout cas pour le premier week-end, où justement sur la question de la danse et du paysage, on avait envie d'inclure une notion de parcours qui fait qu'on voit des spectacles, c'est quand même l'enjeu principal du projet, mais qu'entre ces spectacles, traverser des espaces paysagers, c'était aussi très important pour se nourrir aussi, pour accorder de la place aussi à une rêverie, déposer ce qu'on vient de voir, être en appétit de peut-être ce qu'on va voir, ou tout simplement être dans une rêverie, être avec ses amis, voilà.
Le festival a lieu sur deux week-ends, à Combourg et à Bazouges-la-Pérouse, avec énormément de propositions et avant tout, évidemment, de spectacles de danse qui auront lieu donc in situ, en situation dans des paysages et des lieux remarquables que l'on pourra retrouver aussi bien à Combourg qu'à Bazouges-la-Pérouse, avec des déambulations, avec l'idée vraiment de déambuler et de passer de lieu en lieu, de paysage en paysage. C'est bien ça.
C'est bien ça, parce que par exemple... À Combourg, pour citer le samedi 15, le premier jour du festival, eh bien, c'est vrai qu'il y a des configurations très, très différentes, en fait. Donc, quand on est habitant de Combourg, on s'en rend compte, mais on s'en rend compte aussi par l'usage, soit parce que c'est des parcours que l'on fait, soit parce qu'on y fait du sport ou aussi des balades. Mais lorsqu'on découvre ces paysages avec des œuvres, d'un seul coup, c'est comme si ça augmente. Il y a quelque chose qui s'augmente dans la perception. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais on aime aussi beaucoup donner une véritable place au parcours, c'est-à-dire comment on va d'un lieu à un autre et comment, encore une fois, se dépose la pensée ou alors tout simplement on passe un bon moment avec les personnes avec qui l'on est venu ou des personnes que l'on rencontre, mais on prend vraiment le temps de goûter cet entre-deux spectacle. Ça m'importe beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement d'un point B à un point C par exemple, mais on prend vraiment le temps de se charger aussi, d'être sensible à son environnement. Donc ça m'importe beaucoup. Et puis bien sûr, le moment du spectacle, c'est un peu un espèce de temps augmenté. On n'a pas tant besoin d'énormément de choses pour s'augmenter. Les artistes ont tellement une capacité à jouer avec les contextes. Et que d'un seul coup, tout devient très, très aigu en termes de sensibilité. Et surtout que les espaces paysagers ne sont pas utilisés comme des cartes postales ou comme un décor un peu comme ça, qui devient tout à coup très, très romantique ou sublimé. Il y a vraiment l'idée de faire aussi presque un troisième personnage, que le paysage devient vraiment un personnage, et des fois il est même personnage principal. Donc ça, c'est ça l'enjeu aussi du projet, c'est-à-dire que c'est pas du tout d'inscrire un spectacle, dans un décor, c'est vraiment que le paysage puisse augmenter aussi le spectacle. Et ça, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant à, à regarder et à fabriquer, en tout cas en tant que directrice de ce projet, c'est vraiment passionnant.
Alors c'est aussi la fine fleur, on peut le dire, de la danse contemporaine, avec des spectacles qui, pour le coup, sont les uns ou les autres pensés directement pour être joués soit en extérieur, soit ce sont des productions pour le festival.
C'est ça. Il y a des artistes qui viennent vraiment. C'est le cas de Mackenzie Bergil, par exemple, qui va être en résidence pendant une semaine. Je pense qu'il aura préalablement, bien sûr, travaillé son projet. Il a sans doute une partition de danse qui s'élabore. Mais néanmoins, il vient vraiment pour la mettre en jeu dans l'espace. Il sera dans le magnifique parc du château de Combourg. Donc, il sera en résidence pendant une semaine là. Et puis, en effet, il y a d'autres artistes qui arrivent avec un projet qui préexiste, soit un projet qui s'est déjà expérimenté en extérieur, soit qui sort vraiment du théâtre, donc un contexte complètement différent, pour s'expérimenter en extérieur. Et souvent, pour certains artistes, ce sera la première fois qu'ils expérimenteront ce spectacle-là en extérieur. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi quand ça devient, du coup, un autre spectacle. C'est-à-dire que, je le dis aussi parce que beaucoup d'artistes en parlent comme ça, c'est-à-dire que, comme si un spectacle dans un théâtre, eh bien, il a un certain nombre de... Ben, il a sa propre puissance et tout ça. Et puis, d'un seul coup, de le recréer dans cet environnement, il déploie encore une autre figure, en fait. Il apparaît encore différemment. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des sensations absolument géniales. Donc voilà, il y a ces deux configurations.
Alors, ce sont des spectacles. Par exemple, le samedi 15 juin, où on pourra retrouver trois spectacles durant l'après-midi à partir de 15h30. Autothérapie de Mackenzie Bergil. Il y aura aussi pièce distinguée numéro 45 de Larry Bott. Et puis Analphabète de Lenio Caclea, donc que l'on pourra suivre durant cette déambulation d'après-midi, ce parcours. Et il y aura aussi un fest-noz oui. Après le plateau radio que j'annonçais.
Exactement. Et puis juste avant, en fait, à 14h30, si je ne me trompe pas, il y a aussi un atelier de hoop dance qui est une version différente du hula hoop, mais c'est assez proche. Voilà, donc là, c'est vraiment un atelier qui aura lieu Cours des Arts. Et c'est un peu le début, le rendez-vous est Cours des Arts où on se donne rendez-vous pour partir ensemble. Et avant, pour toutes les personnes amatrices, débutantes, parents, enfants, enfin voilà, on peut être, venir pratiquer le hoop dance, c'est absolument joyeux. Et en effet, on termine aussi la soirée par danser ensemble, parce que c'est quand même aussi l'objet de ce festival, c'est que la danse, elle se traverse aussi. On adore danser en Bretagne. Et en effet, finir cette première journée avec Pao Bran pour un fest-noz, c'est génial. Je suis très contente de ça.
Et le lendemain, donc le dimanche 16 juin, ce sera alors là pour le coup au château de la Balue, c'est à Bazouges-la-Pérouse, hein, me semble-t-il.
Oui, c'est donc les jardins merveilleux, vraiment d'une beauté incroyable, saisissante, du château de la Balue, avec un lieu fort. Enfin, les jardins sont vraiment très, très puissants parce qu'il y a une écriture quasi architecturale des jardins. Avec des configurations très différentes, hein. Ça va du théâtre de verdure à un bois de bouleau, en passant par un jardin plus à la française, on dirait. Donc, y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce jardin. Il y a d'ailleurs une visite du jardin avec la propriétaire Marie-Françoise Mathieu Maton. Et je vous conseille de suivre cette visite parce qu'il y a vraiment énormément de choses à découvrir, extrêmement précises en termes botaniques, mais aussi sur l'histoire de ce jardin qui est assez merveilleux. Donc voilà, et là, donc, c'est une autre configuration pour d'autres spectacles qui auront lieu là, donc avec trois propositions chorégraphiques Donc on commence avec Yule Field, ce sera la première fois qu'elle dansera ce spectacle en extérieur. Elle reprend des danses des années 20 d'une artiste qui s'appelle Valeska Gert et qui a principalement écrit des danses qui ont aussi qui sont aussi vocales. Elle utilise énormément la voix, c'est vraiment passionnant. Elle a un travail qui est très proche du cabaret. Et c'est voilà, je suis très heureuse de l'accueillir.
Dans cette déambulation, donc, il y aura aussi la danse et l'archéologue ou une idole dans l'os de Didi Dorvilliers.
Alors, c'est une création, donc je ne l'ai pas vue comme création parce que donc ce sera une première lors de ce 16 juin dans les jardins du château de la Balue. Mais en fait, Didi Dorvilliers, c'est une artiste américaine qui vit en France depuis très longtemps et elle s'est installée depuis, je pense, 5 ou 6 années en Bourgogne, en pleine campagne. Et elle s'est beaucoup intéressée à des sites archéologiques. Et donc, elle a eu un véritable intérêt pour cette pratique, alors même qu'elle est danseuse et chorégraphe. Et je crois qu'elle a tout simplement rapprocher cette pratique, cette espèce de fouille sensible et de couches d'histoire comme ça. Et elle fait une analogie avec les couches d'histoire que l'on a en nous de danse et de mouvement comme danseur et chorégraphe. Comme si on apprend toute notre vie depuis que l'on est enfant, pour ceux qui ont commencé tôt, à apprendre des répertoires et des répertoires et des répertoires de danse qui ne s'annulent pas les uns après les autres, mais qui au contraire se feuillettent, enfin existent en nous. Et je crois que ce qu'elle convoque là, c'est cette espèce d'archive vivante en fait. Et c'est pour ça qu'elle fait une analogie, je pense, avec l'archéologie.
Et puis, dans ce parcours, il y aura Disparu de Marcella Santander, toujours donc le dimanche 16 juin, à Bazouges-la-Pérouse. Disparu,
Marcella Santander, c'est une jeune chorégraphe et danseuse qui vient du Chili. De Santiago et qui vit en France depuis quelques années. Elle fait pas Santiago Bazouges-la-Pérouse, elle vit à Paris. Et donc c'est très intéressant comme travail ce qu'elle se propose dans ce solo, parce qu'elle prend une posture qui est la posture accroupie. Qui est une posture à la fois de travail, par exemple, dans plein de cultures, en fait, que ça va du Japon, on parlait de l'Amérique latine, mais même en France ou encore sur le continent africain, une posture accroupie où on travaille des différents types de travaux, manuels ou autres, ou de cuisine. Et puis, c'est aussi une posture de danse, mais c'est une posture que l'on... Voilà, que l'on voit dans plein de circonstances, j'ai envie de dire, quotidiennes. Et elle part de cette posture et elle en fait une danse, en fait. Enfin, c'est comme une sorte de premier geste qu'elle va complètement investir pour en faire un geste de danse. Donc, je trouve ça très intéressant parce que dans toute cette programmation, en fait, c'est la danse à cette force, je trouve... À la fois de prendre dans des choses très quotidiennes, comme ce solo disparu, ou des questions de mémoire, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un comme Didi Dorvilliers, ou encore Mackenzie Bergil, qui lui revient, son travail s'appelle Autothérapie, essai à ciel ouvert. Eh bien, c'est vraiment un travail sur... comment la danse peut être aussi un espace de guérison. Guérison pour lui, mais guérison aussi d'une mémoire traumatique. C'est un artiste qui est franco-haïtien et qui parle beaucoup de la question de l'exil ou des violences aussi, des violences de guerre, des violences... et comment la danse a cette capacité à aussi soigner. Donc, je trouve que souvent, le public se dit, mais la danse contemporaine, ça peut être, on ne connaît pas. Il faut se dire que c'est, faut se rapprocher de son propre corps, en fait. On a tous un corps. On a un corps qui parfois a envie de s'exalter, a envie de danser, a envie de courir, a envie de pratiquer diverses choses. Et puis, on a aussi un corps qui reçoit, qui peut aussi, qui a un corps mémoire. Et ces artistes, en fait, ils attrapent de façon peut-être plus aiguë ces questions-là et ils en font un geste de danse. Donc quand on voit de la danse contemporaine, je crois qu'il faut juste tout simplement de se dire qu'on a tous un corps en fait et de se dire qu'aussi tout ce que l'on voit dans ces spectacles est absolument légitime parce qu'en fait, même si les artistes partent, on va dire, d'un sujet ou d'un objet de travail ou d'une rêverie, je pense qu'il n'y a pas un artiste qui va se dire que ce qu'on a projeté sur ce qu'on le voit, je ne sais pas si je ne vois pas du tout... ce geste premier, par exemple, chez Marcela Santander, être accroupi, on s'en fout, en fait. Je veux dire, ce qu'une personne va voir, c'est absolument légitime, dans le sens où c'est aussi une surface de projection. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire que ce que l'on voit ou ce que ça nous a donné à penser ou à imaginer, c'est archi-valide. Voilà, pour moi, c'est important de le dire parce que parfois, ça c'est pas du tout majoritaire, mais parfois je discute avec des personnes qui viennent pour la première fois, parce que c'est ça qui est assez génial dans la danse en extérieur, c'est que on se sent légitime à venir dans un jardin. Enfin voilà, on le fait tous les jours, et parfois on ose moins aller pousser la porte d'un théâtre. Donc ça c'est assez chouette parce que du coup ça crée des situations de public très variées, ça moi je trouve ça hyper important. Mais parfois, en discutant avec des personnes, elles me disent, mais alors j'espère ne pas me tromper, j'ai senti ou j'ai perçu ça ou j'ai vu ça, je me suis raconté ça, enfin j'espère que je ne me trompe pas, que l'artiste voulait dire ça. Mais j'ai envie de dire, moi comme artiste chorégraphe, quand quelqu'un vient me dire quelque chose que je n'avais pas imaginé, mais je trouve ça génial. Et je me dis, tiens, c'est comme un angle mort que je n'avais pas vu et qu'une personne avec son imaginaire et son regard... Eh bien, elle vient, encore une fois, oui, presque encore une fois, j'ai beaucoup dit augmenter, mais oui, elle vient encore ajouter quelque chose à l'image, quoi. Et ça me remplit, en fait. Je me dis, c'est super, c'est génial. Donc, il n'y a pas du tout de perception fausse, voilà.
Et donc, on pourra découvrir les spectacles de danse ce premier week-end du samedi 15 juin et dimanche 16 juin.
Également de la programmation cinéma, en fait, cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on va présenter des films dans les salons du Château de la Balue. Et voilà, donc ce sont des films de danse qui sont un peu comme un montage, en fait, sur des... Justement, tout à l'heure, je parlais, pour parler des différents chorégraphes, je disais que les chorégraphes pouvaient s'attacher à un geste tout à fait quotidien, par exemple. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail d'Elisabeth Finger, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans la façon dont elle a monté ce petit document filmique, c'est très pédagogique, en fait, mais j'aime beaucoup. C'est, par exemple, elle prend le geste sauter ou le geste tourner, enfin, des gestes très, très simples. Et donc, à partir de ces gestes très simples du quotidien, elle montre comment ça peut devenir des danses. Mais comment, en fait, par exemple, tout simplement s'asseoir, qui est, je pense que tout le monde le fait, enfin, il n'y a pas que des chorégraphes qui s'assoient, eh bien, elle montre comment ça peut être un motif qui devient un geste de danse et une chorégraphie. Et je trouve que c'est très, très malin, ce qu'elle a fait. Et puis, c'est des danses très diverses, ça peut être des danses contemporaines, mais des danses traditionnelles, enfin voilà, on passe, ou des danses hip-hop, enfin, on passe par plein d'états de corps. Donc, c'est dans un moment du programme à la Balue, qui est un moment où on peut choisir un peu son menu, je dirais. Je parlais de cette visite des jardins, ça peut être aller voir les films à ce moment-là, ou aller pratiquer encore une fois du hoop dance, voilà.
Durant ce festival, il y a un second week-end qui est consacré à la forêt, on peut le dire, et qui se situe en forêt, en grande partie. Donc, ce sera le samedi 22 juin. Alors, pour le coup, là, au château de la Balue,
dans la partie
forêt du château, et le dimanche 23 juin, en forêt de Villequartier, la forêt domaniale de Villequartier, à Bazouges-la-Pérouse. Ce seront aussi des parcours.
Oui, c'est aussi des parcours, en effet, avec une teneur un petit peu différente. Je parlerai plus de parcours, par exemple, pour le dimanche. Et pour le samedi 22 juin, c'est plutôt... on invite un peu le public à une sorte de moment un petit peu rituel, je dirais, à travers le projet, notamment à travers le projet d'un collectif qui s'appelle La Collective, un collectif rennais d'artistes, composé d'artistes qui font un projet qui s'appelle le Festin Souterrain, qui ce festin va conduire à plein de types de pratiques, notamment à une balade musicale. C'est comme un peu le motif principal de l'après-midi, puisque ce festin conduit à un repas. Mais l'idée de ce projet, c'est pas du tout d'arriver au moment du banquet, c'est vraiment de participer à toute l'élaboration du projet, puisque c'est donc une pratique assez ancienne, je crois qu'il vient vraiment d'Amérique du Sud, qui est donc creuser un four dans la terre, en fait. Donc c'est à 80 cm de profondeur sur à peu près 1,50 m de circonférence. Et donc, il y a une technique d'enfouissement comme ça. C'est un peu comme mettre du bois et puis des pierres réfractaires. Donc, ça crée un véritable petit four, on va dire. Et puis, il y a une technique d'enfouissement des légumes qui vont mettre ensuite entre 3h, 3h30 à cuire. Et toute cette pratique-là est une pratique collective. Parce que voilà, c'est vraiment se réunir autour de la préparation d'un festin. Et donc, ces artistes ont plein de façons comme ça, très performatives, on va dire, de convoquer le public à participer. Ça va de la cueillette de plantes à chanter ensemble, à préparer les légumes, à préparer des sauces, enfin voilà. Donc à la fois, j'aime beaucoup cette situation parce que c'est aussi des échanges de savoir. On apprend aussi ensemble et je pense que les personnes qui ont envie de venir, je suis sûre qu'elles savent aussi beaucoup de choses. Donc c'est des moments où moi j'aime bien ces situations où on échange des savoirs, tout simplement. Donc voilà. Et pendant la cuisson, eh bien, il y a plein d'autres activités, dont cette balade avec Juan Lherménier. Qui fait une sorte de pratique de musique verte, on va dire. Il y en a qui disent lutherie sauvage, d'autres musique verte. Donc, il emmène une partie du public en balade. Il y a, pendant cette balade, donc collecte des différents matériaux qui sont vraiment des déchets végétaux, on va dire. Principalement des choses à souffler et à des éléments de percussion, on va dire. Et puis, à la fin de la promenade, il nous incite à pratiquer. Donc, il y a plein de différents sifflets, de choses plus, encore une fois plus percussives. Et ça fait une sorte de petit instrumentarium avec lequel il fabrique une sorte de petit orchestre des participants. Et lui, il est clarinettiste. Et donc, on va l'accompagner dans une improvisation musicale. Donc voilà, donc c'est aussi une balade. Pour moi, c'est assez important sur ce week-end que les promenades soient, ça peut être des promenades, on l'a fait parfois avec, ça peut être un garde forestier, ça peut être un ornithologue, un anthropologue. Il y a différentes façons de traverser ce milieu forestier en apprenant encore une fois en échange de savoir. Et là, on se disait que c'était intéressant que ça mène à une pratique artistique, en fait, la musique en l'occurrence. Et voilà. Et puis, tout ça mène au banquet.
Il y aura un banquet, donc, du festin souterrain, c'est bien
voilà,
ça ?
Voilà, un banquet du festin souterrain. On convie aussi les gens à venir avec un pique-nique pour augmenter le festin. Et donc, on dînera en effet ensemble, vraiment autour d'un banquet qui sera, je pense, largement musical également. Et puis, à la tombée de la nuit, on montrera un film d'une artiste metteur en scène et cinéaste qui s'appelle Patricia Alio et qui présente son film « Brûler pour briller », qui est un film magnifique, une sorte de... C'est à la fois un conte et à la fois une espèce de, comment dire, de... Oui, d'hommage à un village qu'elle habite en partie, à Saint-Jean-du-Doigt.
Donc ça, ce sera de 22h à minuit, cinéma dans les bois, pendant cette journée du festival, le samedi 22 juin. Et puis, il y aura ce dernier jour, le dimanche 23 juin, en forêt de Villequartier, la forêt domaniale entre Tran, Bazouges-la-Pérouse et Cugin, avec un départ du parking. Donc ce sera aussi un parcours qui sera proposé aux spectateurs, avec un départ du parking à 12h30. Pour un pique-nique.
On passe notre temps à pique-niquer. Non, mais c'est très joyeux de se retrouver. C'est pas obligatoire, on peut venir juste au moment du départ pour le parcours. Mais en tout cas, on donne rendez-vous aussi au public qui a envie de venir déjà pique-niquer dans la forêt comme pré-départ.
Alors, il y aura donc ce pique-nique et puis un manuel de littérature du retour en forêt organisé par le collectif Lumière d'août.
Eh bien donc, ce sont là deux comédiens du collectif Lumière d'août qui, à cette occasion, enfin pour ce projet qui existe déjà, hein, ils ne l'ont pas créé pour cette situation, ils ont déjà eu l'occasion de le jouer plein de fois, ils ont réuni un corpus de textes. Je pense qu'il est très très large. Hein. Il y a de la poésie, il y a des textes critiques, on va dire, d'anthropologues. Il y a plein de sociologues aussi. Enfin, c'est des textes évidemment qui parlent de la forêt et de la question écologique évidemment et des écosystèmes. Et donc, ils le mettent en scène dans la forêt. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que, bien sûr, ce sont des textes qu'on pourrait chacun d'entre nous lire. Et d'un seul coup, de les entendre et dans ce contexte-là, est mis en scène parce qu'ils sont, ils ont vraiment une justesse comme ça dans la façon d'habiter la forêt pour donner ces textes à entendre et à voir aussi parce qu'ils ont une partition assez physique. Et là, c'est donc ce corpus de textes, encore une fois, qui va de la poésie à des questions théoriques ou critiques ou très drôles aussi. Hein. C'est pas du tout... Il ne faut pas se dire qu'on doit avoir Bac plus 7. C'est vraiment un spectacle, quoi.
Et d'ailleurs, il y aura une conversation ensuite, après ce manuel de littérature de Retour en forêt, une conversation avec Jean-Luc Toulec, écologue, et Emmanuel Dufay, maraîcher, autour de l'arbre paysan et l'arbre forestier. Kézako,
alors c'est leur titre, mais que je trouve passionnant. D'abord, je suis très heureuse de les accueillir tous les deux. Emmanuel Dufay, on se connaît depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a une pratique maraîchère à Plaine Fougère. Il est installé à la Petite Clé. Et c'est quelqu'un qui a une pratique extrêmement exigeante. Je crois que dans sa famille, ils sont paysans de père en fille, je crois. Et en tout cas, il a modifié sa pratique en allant vers l'écologie, mais avec une écologie qui est vraiment aussi très ouverte. C'est quelqu'un qui est très accueillant dans sa façon de réfléchir, très exigeant, et qui m'a appris personnellement énormément de choses. Donc ça fait longtemps que j'avais très envie de l'inviter. Et lui m'a tout de suite parlé de l'arbre paysan, c'est-à-dire qu'en fait, l'arbre, c'est pour lui, dans sa façon de cultiver, dans sa pratique maraîchère, l'arbre est un véritable allié. C'est pas seulement un arbre nourricier, c'est aussi un allié pour plein de choses, il en parlera beaucoup mieux que moi, mais évidemment, on peut penser en premier lieu à la pollinisation, mais... aussi à la façon dont les arbres peuvent être coupe-vent, c'est des abris à oiseaux, c'est des abris à plein d'autres insectes divers et variés. Enfin, donc l'arbre comme allié, l'arbre paysan, je pense que c'est dans ce sens-là Et voilà, et on sait qu'en habitant aussi à la campagne, on a aussi d'autres types de rapports à l'arbre, ou le prendre un peu parfois comme un arbre à couper parce qu'il va nous gêner ou pour plein d'autres raisons. Donc voilà, je pense qu'en agroforesterie, cette question de l'arbre comme allié est très très importante et ça m'intéressait de le mettre en conversation. C'est d'ailleurs lui qui l'a proposé, donc c'est pas du tout une invention de ma part, qui a proposé d'être en conversation avec Jean-Luc Toulec, que je connaissais pas, que j'ai rencontré à travers le projet de la Bigotière. Lui, il va évidemment amener l'arbre vraiment justement dans sa dimension écologique et aussi dans sa dimension, je parlais tout à l'heure d'agroforesterie, enfin comment d'un seul coup on peut s'en servir aussi, enfin s'en servir, juste côtoyer les arbres pour aussi avoir des échanges aussi, de, comme je disais tout à l'heure, de connaissances et de pratiques quoi.
Et ce sera donc ce dimanche 23 juin et qui viendra d'une certaine manière conclure le festival Extension Sauvage 2024.
C'est ça, donc on finira autour d'un verre, mais dans cette conversation bivouac donc qui se fera après une balade, après le spectacle de Lumière d'août. Eh bien, c'est vraiment, je crois que Jean-Luc Toulec, comme Emmanuel Dufay, le pense vraiment pas du tout comme arriver avec un savoir comme ça, ascendant. C'est encore une fois plutôt pour générer une conversation. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle conversation et pas conférence ou voilà. C'est vraiment pour générer une conversation autour de l'arbre paysan et l'arbre forestier.
Oui, des conversations. Et puis voilà, le public est amené d'une manière générale pendant tout le festival à participer, aussi bien en se déplaçant, en déambulant, qu'en participant aux conversations.
À participer à plein d'endroits. On disait tout à l'heure, il y a des ateliers de danse, il y a le fest-noz, il y a plein de... Voilà. Et j'ai oublié de parler, ce qui est très important, parce que je suis très contente qu'il y ait ça. Bon, bien sûr, la Cour des Arts, par exemple, à Combourg, c'est aussi la possibilité de manger. Donc, il y a des personnes qui sont absolument fantastiques, qui travaillent à partir de produits locaux et tout ça. On a aussi des alliés à Combourg, pour ne pas les nommer, Combourg Animation, qui vont tenir un bar. Et puis, il y a aussi un marché des créateurs. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que sur la place Piquette, donc il y aura un marché avec plein de... Il y a des librairies, il y a la librairie du Hareng Rouge, il y a une friperie, la friperie French Fripe, des personnes qui fabriquent des bijoux. Enfin, il y a énormément de personnes qui viennent. Une jeune artiste en herbe, Esther Amalvi, qui fait du crochet, qui fait plein de vêtements crochets. Enfin, il y a vraiment aussi une façon d'être dans le festival, de plein de façons différentes. Donc, et ce moment aussi avec Radio Univers, puisque c'est important parce que c'est arrivé vraiment par la demande du public de rencontrer les artistes par leurs œuvres, c'est génial. Mais d'avoir un petit moment pour discuter avec eux, ou en tout cas pour les entendre parler de leur spectacle, c'est important. Donc on a écouté cette demande et on est très 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 heureux de cette collaboration avec la radio, parce que c'est une façon en même temps de capter le moment à l'instant T, puisque c'est indirect, et en même temps la chance que ce soit aussi podcastable et que ce soit potentiellement réécoutable à d'autres moments. Donc merci.
Eh bien, merci Latifa Lahabissi pour donc cette présentation du festival Extension Sauvage qui aura lieu donc le samedi 15 juin, dimanche 16 juin et le week-end d'après, le samedi 22 juin et dimanche 23 juin, où nous serons présents effectivement pour un plateau radio qui accueillera notamment les artistes du samedi 15 juin de l'après-midi et où l'on pourra retrouver effectivement la présentation de leur spectacle, notamment. Merci à vous. Évidemment, on peut retrouver tout le programme sur les réseaux sociaux.
Extensionsauvage.com. Voilà, vous avez toute la programmation. Et puis, à J-2, c'est-à-dire dans 2 jours, vous allez pouvoir, dans quelques jours, enfin, trouver tous les éléments, enfin, des flyers qui seront chez les commerçants, des affiches, des programmes, enfin, dans divers endroits. Donc voilà, venez nombreux et à très vite du coup.
Merci à vous.